au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Jeudi 21 mai, j'espère que vous avez passé une belle journée. C'est 15 degrés actuellement au cœur de Lanaudière à l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante. Il sera question de la CAQ qui cherche désespérément de jeunes candidats. On aura l'occasion d'entendre à l'émission Evelyne Chagnon, elle est directrice générale et artistique de diffusion Actor Charland. Elle revient sur le débat épineux concernant le stationnement à l'Assomption. Le ministre de la Justice et des Relations canadiennes, Simon-Jolin Barrette, était de passage aujourd'hui à Joliette. On aura l'occasion de l'entendre dans l'émission. Mais tout d'abord, l'ex-députée provinciale de Joliette, Véronique Yvon, est co-signataire d'une lettre qui réclame à tous les partis politiques de faire de l'itinérance une priorité nationale. Les signataires issus de tous les milieux souhaitent la tenue d'un sommet transpartisan. En entrevue avec François Morin, Véronique Yvon a notamment insisté sur la concertation qui doit mener à la tenue d'un sommet sur l'itinérance.
Alors, Véronique Yvon, vous êtes co-signataire d'une lettre qui a été publiée hier dans Le Devoir, réclamant que l'itinérance soit qualifiée de sujet national. De toute façon, il s'est imposé de lui-même dans la campagne électorale qui s'en vient. Est-ce qu'on demeure quand même optimiste qu'à long terme, il y aura des pistes de solutions?
Oui, il faut rester optimiste parce que ça n'a aucun sens hein, qu'une société aussi riche, qu'il y a des politiques sociales aussi fortes que le Québec vive une telle crise de l'itinérance. Puis on voit que malgré beaucoup d'efforts qui se font quand même sur le terrain, beaucoup d'organismes communautaires là, qui se déploient, beaucoup de travail qui s'effectue, le phénomène ne se résorbe pas. Hein. Au contraire, les derniers chiffres du dernier décompte nous ont montré qu'il y a eu une hausse donc à travers le Québec de 20% en 3 ans du phénomène. Donc, c'est un peu un cri du cœur transpartisan qu'on voulait lancer en disant on ne peut pas donc rester indifférent. On le sait, c'est une situation intolérable, donc on ne doit pas la tolérer. Mais encore faut-il jumeler à ce cri du cœur de l'action. Donc, c'est ce qu'on souhaite, qu'il y ait plus d'action. Puis pour que ce soit bien fait, ben il faut que ça soit concerté. Et ça a l'air bien plate comme mot quand on parle de concertation puis de collaboration, mais moi, quand j'ai fait la première politique nationale de lutte contre l'itinérance quand j'étais ministre aux services sociaux, il y a une dizaine d'années, la première condition de réussite qui était écrite noir sur blanc, c'était la concertation, parce qu'il y a tellement de joueurs impliqués. Il y a évidemment le gouvernement du Québec, il y a les municipalités, il y a le gouvernement fédéral avec des programmes en habitation, il y a le milieu communautaire, il y a le milieu de la recherche, les forces policières, bref, il y a énormément de joueurs et c'est sûr que tout le monde a excellentes intentions, mais des fois quand la main gauche sait pas ce que la main droite fait, quand il y a une reddition de compte qui est trop forte, quand on est tout le temps dans la réaction au lieu d'être dans la prévention, ça ne donne pas les résultats que l'on souhaite. Donc, l'idée derrière la demande de ce sommet transpartisan, puis c'est une démarche transpartisane avec d'ex-élus de tous les partis qui ont signé la lettre avec aussi beaucoup de joueurs de la société civile, c'est que tous les partis s'engagent dans le fond à en faire une priorité et à dire en faisant un sommet, c'est toute la société québécoise qui va se doter d'une feuille de route d'action que l'on doit faire et aussi d'engagement public. Parce que moi, je trouve que c'est un gros problème, c'est que plein de gens prennent plein d'engagements puis disent oui, mais il n'y a pas de reddition de compte public. Moi, je rêve de voir une table devant les médias et la population où on a tous les niveaux de gouvernement, tous les gens qui sont imputables rendent des comptes 2 fois par année pour dire voici ce qui avance, voici ce qui va moins bien, puis de faire en sorte qu'on a le droit de leur poser des questions puis savoir ben là vous parlez-vous ou bien vous envoyez la pierre à l'autre puis vous envoyez la responsabilité puis le singe sur l'épaule de l'autre. Donc c'est ça un peu le sens de la démarche.
Et bien sûr, on s'attend à ce que ça soit dit haut et fort, c'est qu'il y a peut-être des budgets qui vont pas aux bonnes places. Et là, on entend toujours ça. Oui, mais on n'a pas les moyens de régler le problème.
Les budgets, c'est un enjeu, évidemment, toujours. Mais je pense que justement, il faudrait faire le compte de est-ce que les sommes sont dépensées d'abord de la manière la plus adéquate en ce moment? Est-ce qu'on est comme toujours trop en urgence? Hein? On sait que oui, c'est essentiel d'avoir des refuges puis des haltes chaleur, mais ça, c'est le bout ultime de la solution. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi quand les jeunes sortent de la DPJ, quand les gens sortent de situations difficiles, quand les gens sont évincés de logement où le risque devient encore plus grand? Donc, est-ce qu'on agit correctement aussi en prévention? On le voit partout, on le voit en santé. C'est toujours le bout de la réparation qui retient le plus l'attention puis qui souvent engrange de grandes sommes. Puis oui, c'est essentiel pour s'en sortir pour les gens qui sont déjà dans la rue, mais il faut aussi penser à cette augmentation-là de l'itinérance qu'on voit. Donc, comment on peut prévenir l'augmentation du phénomène? Fait que, oui, vous avez raison, il faut vraiment se demander où va l'argent? Est-ce que c'est les meilleurs endroits? Je pense qu'il n'y a pas trop d'argent, très certainement. Il faut probablement d'autres injections de fonds. Mais il faut justement que tout le monde se regarde puis se parle. Puis qu'on ne soit pas non plus dans toujours, ben là, on va essayer de se décharger de ça, puis que ça soit l'autre ordre de gouvernement. On le voit, hein, les villes sont prises avec l'enjeu parce qu'il n'y a plus personne après elles. Elles travaillent, oui, bien sûr, avec les organismes communautaires, mais il n'y a plus personne d'imputable après elles. Et pourtant, ce n'est pas elles qui tiennent la plus grande responsabilité, hein, c'est le gouvernement du Québec. Puis il y a un enjeu de concertation, puis aussi de proactivité dans ça, de vouloir prendre la responsabilité. Mais il y a des gestes encourageants. La nouvelle première ministre Christine Fréchette a mis dans le titre du ministre Lionel Carman en services sociaux nommément la responsabilité de la lutte contre l'itinérance. C'est la première fois. C'est demandé depuis longtemps. Donc ça, je pense que c'est un bon geste. Paul Saint-Pierre Plamondon a annoncé que ça serait sa grande priorité en matière sociale, la lutte contre l'itinérance. Donc je pense que ça bouge, mais notre objectif, c'est justement à la veille de la prochaine campagne électorale que tous les partis s'engagent pour cette grande démarche-là, pour qu'absolument tout le monde soit forcé de travailler de manière collaborative pour en faire une grande, grande priorité de société.
En terminant, on faut quand même aussi, on convient que c'est une urgence, mais il faut aussi convenir qu'il va falloir prendre le temps de bien faire les choses.
Oui, c'est ça, en fait. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ah, un sommet, bon, on va encore parler, puis c'est pas ça le but, justement. Un sommet, on l'a déjà vu au Québec, là, quand on a fait le sommet sur l'emploi et l'économie. Ce qui est ressorti de ça, c'est des politiques très structurantes pour la société québécoise, notamment les CPE, la politique familiale avec les congés parentaux, puis c'est un héritage très, très fort qui a permis notamment aux femmes d'être très présentes sur le marché du travail. Hein. Le Québec est le deuxième endroit au monde où les femmes sont le plus présentes sur le marché du travail, ce n'est pas rien. Donc, tout ça, il faut tenir en compte qu'un sommet, en fait, c'est pas juste une conférence, un colloque, c'est l'idée, c'est de vraiment travailler avant le sommet pour préparer les choses, pour arriver avec des propositions, puis ensuite le faire publiquement, s'entendre, se donner une feuille de route, un ordre de marche publiquement, donner des comptes. Puis s'il y a un domaine où il faut une telle initiative parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de joueurs, c'est bien l'enjeu de l'itinérance. Moi, je le dis souvent, il y a un défi de coordination verticale et horizontale. Verticale, parce qu'on a le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, les municipalités, les organismes communautaires. Puis horizontale, parce qu'à l'intérieur même des gouvernements, si on prend le gouvernement du Québec, il y a énormément de ministères différents qui sont interpellés, hein. Il y a l'habitation, il y a les services sociaux santé, il y a la sécurité publique, donc il y a énormément de la justice. Fait que c'est ça le but. Mais c'est surtout aussi, avec cette lettre-là, d'essayer de secouer encore plus, je dirais, le pommier pour qu'on prenne conscience de l'urgence d'agir puis que toute la société dise « ouais, c'est pas acceptable ce qu'on voit en ce moment ».
François Morin qui s'entretenait avec Véronique Yvon. Toujours agréable d'entendre les commentaires intelligents de l'ex-députée de Joliette, Véronique Yvon. Tant qu'à moi, elle manque beaucoup au milieu politique québécois. Et parlant de politique et de politiciens, dans un moment, le ministre de la Justice et des Relations canadiennes, Simon Jolin Barrette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'expert dépanneur Beaussoir. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, à Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napole, à Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle, Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra et marché IG à Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'expert dépanneur Beaussoir. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Le dimanche 24 mai à 21h, la ville de Notre-Dame-des-Prairies vous donne rendez-vous dans le stationnement du Carrefour culturel pour Acupunk, un défilé de marionnettes géantes où musique, lumière et poésie se rencontrent pour émerveiller tous les publics. C'est à ne pas manquer. Détails au notredamedesprairies.com. Une présentation de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de Lanaudière en collaboration avec la ferme Régis, fruits et légumes.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, le rôti de bas de palette de bœuf est offert à 6,75 la livre ou 14,88 le kilo. Puis les cerises sont à 2,97 la livre ou 6,55 le kilo. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 27 mai en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
CFNJ. Avec vous partout via l'application CFNJ sur vos appareils Android et Apple.
Québec Redneck Bluegrass Project débarque pour une soirée explosive à Joliette le 20 juin avec le phénomène de l'heure, angine de poitrine et en première partie, l'énergie brute de Blame.
Quand ça va bien, que c'est un de ces matins.
Le groupe présentera les chansons de nouvel album à venir ce printemps, sans oublier leurs incontournables. Viens célébrer le début de l'été lors d'un show qui promet d'être mémorable au parc Louis Kerb à Joliette. Réserve tes billets dès maintenant au spectaclejoliette.com.
Envie de manger un bon repas dans une ambiance décontractée? Le CA Resto Traiteur au centre-ville de Joliette propose une cuisine authentique mettant en vedette les saveurs lanaudoises et des produits frais. Découvrez le menu midi unique à toutes les semaines ou encore le menu régulier pour dîner ou souper. Le CA Resto Traiteur offre aussi son service de traiteur personnalisé pour toute occasion. Mariage, réunion d'affaires, anniversaire, corporatif et bien plus. Informations et réservations au 450-394-5880. Le CA Resto Traiteur, 430 34 boulevard Monceau à Joliette.
CFNJ. Lanaudière PM. Politique provinciale.
16h19, le ministre de la Justice et des Relations canadiennes, Simon Jolin Barrette, était de passage aujourd'hui à la Chambre de commerce du Grand Joliette dans le cadre du premier d'une série de dîners politiques. Il a grandement été question aujourd'hui d'économie, mais François Morin lui a aussi parlé de sujets qui lui sont propres dans le secteur de la justice. Okay.
Monsieur Jolin Barrette, on a rencontré des gens d'affaires du Grand Joliette aujourd'hui. Il y a quand même des inquiétudes qui ont été manifestées. On parle de déréglementation, on parle de prévisibilité, puis on parle d'aide gouvernementale. On peut pas donner tout à tout le monde.
Non, c'est vrai qu'on peut pas donner tout à tout le monde. Par contre, il faut travailler avec les gens du milieu, puis les demandes sont légitimes, notamment en termes de prévisibilité. Quand on fait des affaires, supposons, avec l'État, bien entendu, c'est légitime pour les entrepreneurs de dire, ben moi, avant d'investir dans mon entreprise, je veux savoir quelles sont les règles du jeu pour répondre, supposons, à des appels d'offres gouvernementaux. Puis un autre élément qui a été soulevé aujourd'hui sur le plus bas soumissionnaire, on doit se questionner sur ces règles-là, puis il y a présentement du travail qui est fait au Conseil du Trésor pour réfléchir, parce que ce qui est important, c'est qu'on ait des produits de qualité, durables aussi, au meilleur coût possible. Alors, il faut éviter les situations d'extra ou parfois sur le plus bas soumissionnaire, on peut avoir des surprises.
Et On continue à parler d'affaires, là. Pénurie de main-d'œuvre, on en parle beaucoup. Vous avez mentionné que la région de la Naudière avait connu un fort accroissement, connaît un fort accroissement démographique, mais on parle pas nécessairement de naissance, de gens qui viennent demeurer dans la Naudière, mais qui n'y travaillent pas nécessairement.
Oui, effectivement, mais dans la Naudière aussi, le taux de chômage est plus bas que dans le reste du Québec aussi. Ça veut dire que c'est une région en matière de développement économique qui se porte bien quand même. Alors, faut s'assurer que pour les entreprises, ils puissent avoir un bassin de travailleurs qui va permettre de faire fonctionner leur entreprise, de pouvoir avoir de l'expansion aussi. Fait que le gouvernement veut justement donner des programmes, des incitatifs à faire en sorte pour l'automatisation, l'efficacité, l'innovation pour les entreprises qui peuvent se le permettre aussi, mais aussi s'assurer que les gens soient bien formés pour répondre aux besoins du marché du travail, notamment de la Naudière. Ça, c'est prioritaire. Puis, faut s'assurer aussi que l'immigration puisse être accueillie en région aussi, puis que ce soit pas uniquement Montréal qui soit priorisé.
Si on parle de certains de vos dossiers qui vous sont propres, notamment le projet de constitution, malgré le tollé, là, surtout du côté des partis d'opposition, ça avance.
Bien là, on était suspendu, donc on va reprendre l'étude du projet de loi au retour à l'Assemblée nationale la semaine dans deux semaines. En fait, justement, parce que c'est prioritaire de se doter d'une constitution du Québec. C'est ce qui définit nos valeurs, c'est ce qui définit notre identité, c'est ce qui définit aussi comment est-ce qu'on établit nos rapports avec le reste du Canada. Puis le fait que le Québec a davantage d'autonomie au sein du Canada, c'est extrêmement important. Donc, ce sont des outils dans la Constitution puis dans la loi constitutionnelle de 2025 qui vont permettre au Québec de faire des gains. Puis ça, c'est important. Depuis les 8 dernières années, j'ai vu à quel point c'était important de se donner des outils, notamment par le biais de l'unilatéralisme, comme on le fait en modifiant la Constitution canadienne, en inscrivant que les Québécois et Québécoises forment une nation. Ça, ça donne des outils juridiques et constitutionnels pour défendre les intérêts de la nation québécoise.
Je vais sauter un petit peu du coq à l'âne. Je veux revenir un peu sur l'économie parce que vous avez parlé des barrières tarifaires entre les provinces. Ça ne date pas d'hier qu'on en parle de ça. C'est compliqué à régler.
Ben, en fait, on est sur la bonne voie parce qu'il y a eu des conférences interprovinciales qui ont eu lieu. Monsieur Poulin a déposé un projet de loi qui était le ministre délégué à l'économie justement pour faire lever le plus de barrières tarifaires entre les provinces pour que les entrepreneurs puissent faire des affaires partout puis qu'on ait accès à ce marché canadien-là. Vous savez, avec ce qui se passe aux États-Unis, faut maximiser le marché canadien, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Puis notamment, lorsque j'étais ministre des Relations canadiennes, on avait des délégations en Alberta, en Ontario, dans les maritimes pour justement ouvrir les portes pour les entreprises québécoises en termes commerciaux avec Investissement Québec aussi. Donc, faut miser sur le marché canadien puis la diversification des marchés.
Quel bilan on trace maintenant de l'implantation des tribunaux spécialisés dans les régions, notamment Joliette, là, lundi dernier annoncé?
Oui, depuis qu'on l'a annoncé avant Noël, il y a plus de 1000 personnes qui ont passé par le tribunal spécialisé. Alors, c'est extrêmement favorable. La communauté travaille justement à ce que ça fonctionne. Le fait qu'il y ait une approche personnalisée pour les victimes, même procureur du début à la fin, même intervenante socio-judiciaire de liaison, même intervenante du CAVAC du début à la fin, les personnes victimes sont mieux accompagnées. Puis on est en train de travailler sur la phase de travaux au palais de justice aussi pour aménager le temporaire, pour aller vers le permanent, pour avoir vraiment un coin victime au palais de justice.
En terminant, je peux pas passer sur un autre dossier d'actualité, c'est la partie de bras de fer qui commençait avec les procureurs de la Couronne.
Ben, vous savez, les procureurs de la Couronne ont leurs conditions de travail sont valides jusqu'en 2027. Donc, le gouvernement du Québec a investi massivement au directeur des poursuites criminelles et pénales. Dans le système de justice également, ils font un travail extrêmement difficile, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Puis on va continuer de les soutenir puis de les appuyer.
On dit qu'il y a un manque d'effectifs et de votre côté, on dit qu'il y en a suffisamment.
Ben écoutez, notamment avec le tribunal spécialisé, on rajoute des procureurs. Donc, on est passé, supposons, en 2011 à 434 procureurs. Puis aujourd'hui, on a 801 procureurs, plus 34 postes en comblement, plus 75 procureurs-chefs et procureurs-chefs adjoints. Fait qu'on est à peu près à 925, soit près du double. de procureur.
C'était le ministre de la Justice et des Relations canadiennes, Simon Jolin Barrette, qui était de passage aujourd'hui au dîner de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Il est 16h25.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Autoroute métropolitaine pour l'échangeur en joue un peu dense à partir de Saint-Jean-Baptiste et ça jusqu'à Henri Bourassa. Pour la suite, on file sans problème là, pour franchir la rivière des Prairies, Repentigny, 40 Est, un petit peu plus d'achalandage, le secteur du boulevard industriel. Sans ça, là, oui, ça va très bien. La 341 montée de l'Épiphanie, assez dense quand même entre la 40 et la rivière L'Assomption. Pont Le Gardeur, accès facile autant par Notre-Dame que par Sherbrooke, 25 Nord. C'est depuis Laval, boulevard Lévesque et ce jusqu'à l'approche du boulevard des Mille-Îles, là où c'est un peu lourd. Traversée facile vers l'île Saint-Jean, Terrebonne, ça va bien, 25 Nord également du côté de Mascouche, là on circule sans problème. Pont Sophie-Masson, passablement dense en ce moment, là, depuis environ 500 mètres avant le pont et ce jusqu'à la rue Saint-Louis dans Terrebonne. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction est. Il n'y a pas de problème. Oui, ça va quand même relativement bien. Direction ouest, assez dense à l'approche de la montée du Mai et par la suite, un peu plus nombreux, le secteur de la 25. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Profitez de l'Internet fibre sur le nouveau réseau de fibre d'Autry branché. Avec Flitel, vous obtenez un service rapide, fiable et local à partir de $37.95 par mois. Que ce soit pour le télétravail, le divertissement ou les études, notre fibre est prête à livrer la performance que vous méritez. Et surtout, vous encouragez une entreprise d'ici au développement le plus rapide dans la région. Visitez flitel.ca dès maintenant et branchez-vous à mieux.
Un vendeur cogne à votre porte ou il vous sollicite dans un kiosque temporaire, méfiez-vous. La loi lui interdit de vous solliciter concernant le chauffage, la climatisation, l'isolation ou la décontamination. Par exemple, il n'a pas le droit de vous vendre une thermopompe. Face à un vendeur itinérant, faites toujours des vérifications avant de vous engager. Visitez lequebec.ca/vente-itinérante pour connaître toutes les situations où il faut se méfier. Un message du gouvernement du Québec.
Ce samedi 23 mai dès 18h, préparez-vous à vivre toute une soirée à la terrasse chez Donna à Saint-Jean-de-Mata. Un souper-spectacle cajun vous attend avec la talentueuse Marie-Ève Dubois en musique live de 18h à 21h. Ambiance festive, chaleureuse et entraînante au rendez-vous. Et côté bouffe, waouh! Découvrez le fameux plateau cajun à partager pour deux personnes à seulement $145. Deux queues de homard, deux mains de pâte de crabe, une livre de crevettes, une livre de moules, le tout nappé d'une délicieuse sauce cajun maison, avec salade fraîche, riz, patates grelots et maïs inclus. Ça promet une soirée parfaite pour décrocher, bien manger et profiter du moment entre amis ou en amoureux. Les places sont limitées. Réservez dès maintenant. Terrasse chez Donna, 190 rue Laurent, Saint-Jean-de-Mata. 450-886-2519. Terrassechezdonna.com.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, le rôti de bottes palette de bœuf est offert à 6,75 la livre ou 14,88 le kilo. Puis les cerises sont à 2,97 la livre ou 6,55 le kilo. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 27 mai en magasin et en ligne. Détail au superc.ca.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Les orthèses plantaires. Efficaces pour soulager plusieurs pathologies des pieds. Fabriquées sur mesure, elles s'adaptent à votre style de vie et vos chaussures. Prenez rendez-vous pour un examen biomécanique. 450-398-PIEDS, 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
L'actualité de ce jeudi 21 mai en manchette. L'idée d'un sommet sur l'itinérance fait son chemin. Simon Jolin Barrette est clair, il ne manque pas de procureur de la Couronne. Et une aide financière pour l'embauche de nouveaux diplômés. Tout d'abord, Pierre Jubainville, Véronique Yvon, qui veut enrayer l'itinérance.
Oui, ça survient au lendemain de la publication d'une lettre ouverte qui demande à ce que l'itinérance devienne une priorité nationale. L'idée de créer une table nationale pour tenter de contrer le phénomène fait rapidement donc son chemin. Le groupe estime qu'un sommet sur cette question devrait avoir lieu en 2027. L'ancienne députée provinciale de Joliette, Véronique Yvon, est l'une des signataires. Elle croit que les gouvernements doivent cesser de se renvoyer la balle.
Plein de gens prennent plein d'engagements puis disent oui, 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 mais il n'y a pas de reddition de comptes publics. Moi, je rêve de voir une table devant les médias et la population où on a tous les niveaux de gouvernement. Tous les gens qui sont imputables rendent des comptes deux fois par année pour dire voici ce qui avance, voici ce qui va moins bien, puis de faire en sorte qu'on a le droit de leur poser des questions, puis savoir ben là vous parlez-vous ou bien vous envoyez la pierre à l'autre, puis vous envoyez la responsabilité puis le singe sur l'épaule de l'autre.
Contrairement à ce que certains peuvent penser, pour le ministre de la Justice, il y a suffisamment de procureurs de la Couronne.
Or, les relations ne sont pas au beau fixe entre Québec et les procureurs. Le manque d'effectifs qui revient constamment dans les griefs de ceux-ci, ils se plaignent de la difficulté qu'ils ont à traduire des criminels devant la justice. De passage à Joliette ce midi, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, juge que les effectifs sont suffisants.
Ben, vous savez, les procureurs de la Couronne ont une leurs conditions de travail sont valides jusqu'en 2027. Donc, le gouvernement du Québec a investi massivement au directeur des poursuites criminelles et pénales. Dans le système de justice également, ils font un travail extrêmement difficile, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Ben, écoutez, notamment avec le tribunal spécialisé, on rajoute des procureurs. Donc, on est passé, supposons, en 2011 à 434 procureurs. Puis aujourd'hui, on a 801 procureurs, plus 34 postes en comblement, plus 75 procureurs-chefs et procureurs-chefs adjoints. Fait qu'on est à peu près à 925, soit près du double.
À quelques mois des élections provinciales, la CAQ n'a peut-être pas dit son dernier mot.
C'est une nouvelle mise à jour du dernier sondage Léger qui montre que le PQ formerait un gouvernement majoritaire.
On parle d'une mise à jour de QC 125,
l'agrégateur. Oui, 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 de QC 125, oui. Merci, Claude. Oui. Qui est, donc, le PQ formerait un gouvernement majoritaire avec 64 élus, dont 30% des intentions de vote. Les libéraux, deuxième, 28% des voix et 40 députés. Mais, justement, la coalition Avenir Québec n'a peut-être pas dit son dernier mot avec 20% des intentions de vote et 9 députés. Les conservateurs suivent à 13%, 8 sièges, Québec solidaire, 8% et 4 sièges.
Et c'est donc un gain pour la coalition Avenir Québec qui était totalement rayée de la carte là, dans les dernières projections.
Avec zéro député.
Oui, exactement. La CAQ qui tente de recruter des candidats.
C'est le bon moment, des candidats pour l'élection d'octobre, mais par courriel. La directrice générale et organisatrice en chef du parti, Brigitte Legault, justifie cette manière de procéder en affirmant que cela permet de découvrir des candidatures surprenantes.
Il y a des jeunes qui veulent faire une expérience, puis il y a des jeunes qui veulent gagner. Dans notre caucus, présentement, il y a des jeunes qui ont gagné. Simon Jolin avait 30 ans, Mathieu Lacombe avait 30 ans, Samuel Poulain, Mathieu Lévesque, Kariam Bourassa. On en a fait de la place aux jeunes. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont dans mon caucus que je ne connaissais pas si je les avais pas recrutés par courriel, par personne interposée, par portail sur le site web du parti.
On aura l'occasion tout à l'heure de revenir là-dessus là avec Jacques Plante. Québec, Pierre, qui veut inciter les entreprises à embaucher de jeunes diplômés.
Et pour ce faire, Québec met en place une aide financière face à une explosion du chômage chez les jeunes. Le gouvernement veut inverser la tendance du marché. On écoute Louis Lacroix.
Le taux de chômage chez les moins de 30 ans explose, indique le ministre de l'Emploi, Jean-François Simard.
Je ne me souviens pas que le taux de chômage chez les jeunes eût été plus bas que la moyenne nationale. C'est historique.
Pour convaincre les entreprises d'embaucher des jeunes diplômés, Québec va payer une partie de leur salaire jusqu'à concurrence du salaire minimum. Mais attention,
dans son secteur de spécialisation,
Québec espère ainsi renverser la tendance du chômage et mettre les jeunes à l'emploi.
On espère atteindre un objectif entre 4 500 et 5 000 jeunes.
Une bonne nouvelle pour le président du regroupement des chambres de commerce, Pierre Graff, mais il ne faut pas oublier l'incertitude économique actuelle.
Qui en soi est un tarif et pénalise les entreprises pour être capables d'embaucher.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle-Québec.
Pour on va aller plutôt dans le domaine de l'enseignement. On parlait de jeunes diplômés. La formation écourtée en enseignement ne réglera pas le problème de pénurie de profs.
C'est ce que concluent deux études. Ces formations ont été développées par le gouvernement de la CAQ au cours des trois dernières années. Et l'une des études, basée sur 150 écrits scientifiques, indique que ces formations pourraient même aggraver la pénurie d'enseignants qualifiés en abaissant les niveaux de qualification. La seconde étude, réalisée par le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, montre que ces formations accélérées n'ont pas donné de résultats.
Attention, ça risque de vous démanger dans la prochaine minute avec cette nouvelle. L'éthique migre au Nord.
Elle migre au Nord, sauf que l'Estrie, toujours le centre mondial de l'éthique.
Ouais.
Ici, dans la Nodière et dans les Laurentides, on en dénombre de plus en plus. Et 161 cas même à Montréal, soit le nombre le plus élevé depuis 2003. Le microbiologiste et infectiologue Alex Carignan explique que les tiques sont de plus en plus présentes en raison du réchauffement climatique.
On a toutes les raisons, je dirais, de s'en préoccuper. Il ne faut pas se priver, bien sûr, des activités de plein air, mais on développe les réflexes. Donc, à la fin d'une journée, on s'inspecte. C'est probablement la chose la plus importante pour retirer rapidement. On parle souvent, bien sûr, des vêtements longs, d'utilisation d'insecticides. Donc, ce sont des méthodes qui peuvent réduire le risque.
Et des commerçants de l'Assomption qui sont optimistes concernant la saga du stationnement.
Oui, Evelyne Chagnon, la directrice générale et artistique de Diffusion Hector Charland, est d'avis que du choc des idées jaillira la lumière.
On l'écoute.
Oui, on a senti que ça faisait pas nécessairement l'unanimité, mais je dirais qu'à force d'échanger, d'être dans la nuance, de trouver des accommodements, d'écouter surtout les réactions des autres et les défis que ça impose. Moi, j'ai senti que on est dans un tournant en ce moment de solidarité, de projets collectifs, puis de trouver des accommodements de part et d'autre.
Et il y a le collègue Régent Turgeon qui a eu l'occasion de s'entretenir avec Evelyne Chagnon. On aura l'occasion de vous présenter ça dans une petite minute. Et finalement, Pierre, de gros travaux à l'Assomption.
Déjà que c'est pas facile de se stationner dans ce centre-ville où 5 000 étudiants s'y rendent chaque jour. Alors, les automobilistes qui passeront par l'Assomption cet été auront d'autres maux de tête. Les travaux commenceront bientôt sur l'autre rue importante dans cette municipalité, la rue Saint-Étienne, entre les rues Marguerite-Bourgeois et Dupont. Et ils dureront 20 semaines.
Ben, merci beaucoup, Pierre Jubinville. Bon match ce soir, nouvelle série.
C'est sûr, je vais regarder.
As-tu des prévisions? Tout le monde s'avance.
Hurricanes en 4.
Hurricanes en 4? Ah oui. ils ont gagné les deux premières séries en 4. Alors là, tu te dis, ça va se poursuivre en 4.
Ça fait 2 semaines qu'ils sont en congé.
Ben oui. Salut, Pierre.
Salut, bye.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. Lanaudière PM, affaires municipales.
Bien qu'il y ait encore de la bisbille là, au sujet de la question du stationnement au centre-ville de l'Assomption, on sent qu'un dialogue est véritablement amorcé au sujet de la mise en place du projet du maire Sébastien Nadeau d'un système de parcomètre virtuel. Et Régent Turgeon s'est entretenu à ce sujet-là avec Evelyne Chagnon, c'est la directrice générale et artistique de Diffusion Hector Charland.
Madame Chagnon, vous avez sûrement été interpellée par la problématique du stationnement puis des parcomètres numériques payants à l'Assomption. Votre réflexion là-dessus?
Bien, d'abord, je pense que j'aurais pas tendance à appeler ça une problématique. Je pense que la Ville de l'Assomption souhaite apporter des changements parce qu'il y a des beaux projets de transformation de centre-ville, il y a des projets de développement. Puis, on a des défis de stationnement quand même dans le centre-ville, d'optimisation de stationnement. La Ville est arrivée avec une approche de parcomètre et de tarification différente selon des zones. C'est sûr que nos premiers réflexes c'est de penser à nos clients, nos spectateurs, comme tout commerçant, puis également à nos employés, donc de voir comment on travaille différemment avec ces nouvelles orientations-là. C'est sûr que dans dans des perspectives de changement, de développement comme ça, je pense qu'on est dans un contexte où la ville est arrivée avec une approche un peu différente. C'est pas encore commun dans toutes les municipalités, mais on sent un besoin d'aller chercher des revenus un peu différents. On a beaucoup de projets de développement touristique, d'accueillir des visiteurs. Donc, des fois, les alternatives comme celle-ci se présentent. Et en ce moment, je sens beaucoup, beaucoup d'ouverture avec la ville à échanger avec les commerçants, à trouver des solutions pour trouver un juste milieu qui peut répondre autant aux clients, aux visiteurs, aux commerçants. Il y a des comités mis en place, puis on sent qu'on nous demande de nous impliquer, de nous engager, puis de contribuer à trouver des solutions pour que ça soit une solution gagnante pour tout le monde.
Aviez-vous senti la grogne, là, justement, parmi vos confrères, consoeurs, commerçants et commerçantes du centre-ville?
Évidemment qu'on a senti que les gens ne le recevaient pas tous de la même façon, puis dans des changements comme ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a des gens que je connais depuis des années, je connais leur commerce, mais quand il arrive des changements, t'entends des réflexions, t'en apprends un peu mieux sur leur réalité, leur modèle d'affaires, leurs préoccupations, leurs valeurs. Donc oui, on a senti que ça faisait pas nécessairement l'unanimité, mais je dirais qu'à force d'échanger, d'être dans la nuance, de trouver des accommodements, d'écouter surtout les réactions des autres et les défis que ça impose. Moi, j'ai senti que on est dans un tournant en ce moment de solidarité, de projets collectifs, puis de trouver des accommodements de part et d'autre. Donc, je sens qu'il y a un tournant après quelques semaines d'un climat un peu différent à l'Assomption.
Certains diront que si la ville de l'Assomption, M. Nadeau au premier chef, n'a pas reculé sur sa proposition des parcomètres, il a su s'ajuster et entendre justement les commerçants.
Tout à fait. C'est ce qu'on a senti. Il y a eu vraiment beaucoup de rencontres, beaucoup d'ouverture de la ville. Puis on est dans des étapes en ce moment de comité de travail qui va amener des solutions. Donc, je pense qu'on est dans un chemin qui est pas évident. C'est des chemins de changement. Il y a de l'adaptation pour tout le monde, mais je sens beaucoup d'ouverture de la ville.
Il y a une réflexion commune, en tout cas, qui se fait à l'évidence.
À l'évidence, et je trouve que c'est à l'image de la communauté assomptionniste. Donc, de recevoir les défis ensemble, de trouver des solutions, de discuter, d'échanger. Peut-être des fois, le ton lève un peu, mais ça se fait dans le respect, dans la compréhension. Puis on voit qu'à garder cette communication-là continue, ben on est en train de trouver des chemins qui vont répondre possiblement à bon nombre de visiteurs, de citoyens, de commerçants. Il y a tellement de parties prenantes dans des changements comme ceux-là que ça ne peut pas se faire non plus en un claquement de doigts. Ça prend beaucoup de conversations, ça prend des rencontres, puis de l'écoute.
Au final, là, la vitalité économique du centre-ville est en cause ici, et en tout cas un gros enjeu.
Bien, je pense qu'il y a des enjeux de souhaiter une vitalité économique du centre-ville, mais également une optimisation. C'est un défi, le stationnement dans un petit périmètre, le centre-ville. Donc, je pense que d'amener des solutions pour optimiser, puis aussi uniformiser les stationnements, les zones, je pense que mais tout ça est fait dans une réflexion puis une dynamique de vitalité, d'être attractif, puis que ça a un impact favorable. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, l'idée, c'était d'avoir un impact favorable pour les commerçants à travers tout le développement touristique qui est fait. Donc, on est dans un des axes de changement de cet objectif-là.
Merci beaucoup.
Bien, merci à vous.
Voilà, c'est le collègue Régent Turgeon qui s'entretenait avec Evelyne Chagnon. C'est la directrice générale et artistique de Diffusion Hector Charland concernant justement ce problème de stationnement. La fameuse saga du stationnement au centre-ville de l'Assomption. Dans un moment, on parle avec Jacques Plante.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez nos défis, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro un des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks 2026 avec un taux de financement aussi bas que 0 % sur 36 mois. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Un vendeur cogne à votre porte ou il vous sollicite dans un kiosque temporaire, méfiez-vous. La loi lui interdit de vous solliciter concernant le chauffage, la climatisation, l'isolation ou la décontamination. Par exemple, il n'a pas le droit de vous vendre une thermopompe. Face à un vendeur itinérant, faites toujours des vérifications avant de vous engager. Visitez lequebec.ca/vente-itinérante pour connaître toutes les situations où il faut se méfier. Un message du gouvernement du Québec.
Hey, tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vitre. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450-559-6928.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Marcel-de-Richelieu, Épicerie Marie. À Saint-David-Diamasca, Marché du Village. À Saint-Germain-de-Grand-Âme, Marché du Village. Dépanneur 122, BMR Express Saint-Guillaume, Aguisca Coopérative. À Pierreville, dépanneur Gamelin, dépanne Express. À Yamaska, marché Blanchette et Vincent. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Amateurs de burgers, venez déguster le savoureux burger Angus fromage et bacon de Harvey's. Fait de bœuf Angus de première qualité, cuit sur le grill et garni à votre goût. Rendez-vous dès maintenant au Harvey's de Berthierville, Mascouche et Notre-Dame-des-Prairies.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Bon après-midi, mon Claude.
La CAQ qui cherche désespérément de jeunes candidats.
Oui, je regardais ça. Là, c'est sûr, avec le congé à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes, les journalistes cherchent beaucoup de nouvelles. Je ne sais pas si ça avait vraiment fait les manchettes, là, s'il y avait eu d'autres nouvelles, à part que Trump aux États-Unis. Parce que la façon de fonctionner, ça me rappelle très bien à l'époque où on voulait inciter les femmes à aller en politique. Mmh. Tous les partis faisaient de la publicité. Bon, à cette époque-là, il n'y avait peut-être pas les courriels là, au bout du bras. Mmh. Là, on le fait. Moi, je m'en souvenais pas, j'avoue honnêtement, que dans la course à la chefferie, ça faisait partie d'une promesse de Christine Fréchette d'amener des jeunes oui. au parti. Bon, là maintenant,
on va piger dans la banque des membres des jeunes caquistes.
La commission jeunesse, oui. C'est ça, ce qu'on appelle la commission jeunesse. Mais tu sais,
je me demandais même si ça existait des jeunes caquistes.
Oui, parce qu'eux, à un moment donné, ils ont pesé fort et M. Legault était, à l'époque premier ministre, était allé faire un tour parce qu'eux autres, ils avançaient des dossiers assez hot, puis finalement, ils les avaient reviré ça de bord un peu. Mais tu sais, je le sais que je vais faire un gros gag plate, là. Pour les gens plus vieux, ils s'en rappellent sûrement de ce gag-là. Mais quand t'as pas un parti alléchant pour l'instant dans ce que ça donne, il y a pas beaucoup de monde qui lève la main, qu'on parle de jeunes ou de plus vieux, de gens sages avec des feuilles de route assez grandes. C'est un peu comme quand on faisait du recrutement dans l'armée canadienne, viens te joindre à nous, mmh. les forces, mmh. Puis au naval, on disait, est-ce que tu sais nager? Là, quelqu'un disait, ils fournissent pas les bateaux, ou ils ont pas confiance, ça chaloupe. Mais c'était un peu ça, tu sais, c'est qu'actuellement, on regarde, au niveau du Parti québécois et du Parti libéral du Québec, il y a quand même un renouveau, quelque chose qui se passe et on le sait, il y a eu des gens qui ont été nommés jusqu'à maintenant, de la part de ces deux partis-là notamment.
Ben, de nombreux candidats.
Et qui sont de qualité.
Il y a des courses à l'investiture et du côté de la CAQ, personne, on n'a pas nommé de candidat. On sait qu'éventuellement, il y a des gens qui vont se représenter. Ça, on sait que, par exemple, dans Joliette, François Saint-Louis sera à nouveau candidat. On sait que...
Dans Rousseau, le candidat Louis-Charles Thouin va sûrement se représenter.
Caroline Proulx ne se représentera pas dans Berthier. Elle l'a annoncé. On sait qu'on connaît pas mal ceux qui quittent, Mais on connaît pas de nouveaux candidats.
Je sais pas si je me trompe là, parce qu'à un moment donné, on lit tellement de choses et on entend tellement de choses, mais sur 125, 90 sièges, actuellement, il en manquerait une cinquantaine.
Mm-hmm.
T'sais, par rapport à ceux qui se représentent ou pas, bon, Dieu sait qu'on a essayé, avec notamment Geneviève Guilbeault, à lui dire, ben là, est-ce que vous... Puis elle a dit, non, moi, je me retire.
Et là, on cherche 25 jeunes candidats. Oui. Est-ce que ce seront des candidats poteaux?
Ben, il y a ça aussi, hein, tu sais, moi, de toute façon, toi et moi, puis je pense à Pierre, Alain, Nicolas aussi, dans le fond, tout le monde qui est à la station cet après-midi, on est tous pétés lâches, nous autres, hein, pour les jeunes, là, ce qu'ils demandent. On est passé 30 ans, hein,
j'espère. On est passé date.
C'est ça, j'espère que j'ai pas vieilli quelqu'un de trop, parce que moi, me fera recevoir à la salle des nouvelles tantôt, mais tout ça pour dire, il faut que ce soit alléchant, puis comme tu viens de l'évoquer, OK, oui, je serais intéressé à poser ma candidature. Ben, c'est-à-dire, tu envoies ton CV. Tu vas être filtré à l'autre bout, là. C'est comme ça que ça se passe.
Oui, oui, parce que là, on va éplucher les réseaux sociaux à fond.
Exactement.
À fond.
Ils vont aller voir ce que tu écris sur ton Facebook.
Oui, oui, exact.
Et mettons que tu es accepté. Moi, la question que j'aurais, c'est quel poteau va avoir ma photo? Dans quelle circonscription?
Oui, oui, exactement.
Parce que, est-ce qu'on va donner des contesseurs à des gens qui sont néophytes en politique? Là?
Mais
c'est un autre paire de manches.
Il n'y a plus de contesseurs pour la CAQ. Il y a des comtés peut-être prenables.
Oui, mais encore là, comme mardi, quand on regardait les fameux sondages, notamment le Palace Data, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde qui regarde...
Léger.
Non, mais Léger, tu l'as fait avec Pierre le lendemain.
On en a
parlé d'une petite partie de Léger.
Ouais, tu parles du mainstream, toi, le main street là, qui avait pas d'allure. Là,
mais on avait le Palace Data aussi où c'était favorable, défavorable.
Oui.
Et il y avait une grande marge au niveau de la CAQ qui laissait présager, comme il y a encore beaucoup de gens qui, on la regarde aller, Mme Fréchette.
Mm-hmm.
Donc, au niveau des candidats potentiels, hommes ou femmes, avec une bonne feuille de route, je pense que les gens regardent encore... Qu'est-ce qui se passe dans la parade? Est-ce qu'ils vont embarquer dans la parade? Ça reste à voir. Le temps est cool.
Ben oui, et parfois, parce que c'est bien beau de nommer un candidat ou d'y aller avec une investiture. François Legault, lui, présentait son monde. Il installait son monde dans les circonscriptions. Mais sauf que
ça,
parce qu'on doit donner le temps à ces candidats-là de se faire connaître.
Oui.
C'est ça le problème.
Exactement. Là. À moins de trouver carrément des vedettes là, qui sont des vedettes locales. Là.
C'est l'avantage de présenter ces candidats un peu plus tôt, comme le font de nombreux partis.
Exact.
Par exemple, dans Joliette, je pense à Québec solidaire, qui représente encore la candidate Flavie Trudel, qui a gagné son investiture et qui est là depuis de nombreuses années.
Exact.
Elle s'est déjà fait connaître et elle a le temps en masse de faire du terrain cet été.
Exactement. Mais là encore, tu sais, la question des 25 candidatures de jeunes, il faut pas penser non plus qu'on va donner des postes super importants à ces jeunes-là.
Parce que s'ils sont pas connus, s'ils ont pas d'expérience, ils sont pas ministrables.
Puis, tu sais, on parle de jeunes de 30 ans et moins. Là, mm-hmm. t'sais, que même si tu viens de sortir des études, tu sais, je sais pas, mais pour aller en politique, ça prend un certain bagage.
On va écouter là-dessus la directrice générale de la CAQ. Si vous avez manqué le bulletin d'information, il y a à peu près une vingtaine de minutes, là, je vous fais entendre Brigitte Legault, qui est directrice générale de la Coalition Avenir Québec.
Il y a des jeunes qui veulent faire une expérience, puis il y a des jeunes qui veulent gagner. Dans notre caucus, présentement, il y a des jeunes qui ont gagné. Simon Jolin avait 30 ans, Mathieu Lacombe avait 30 ans, Samuel Poulain, Mathieu Lévesque, Karianne Bourassa. On en a fait de la place aux jeunes. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont dans mon caucus que je ne connaissais pas si je les avais pas recrutés par courriel, par personne interposée, par portail sur le site web du parti.
Tu sais, ce qu'elle mentionne de ces noms-là, ils sont là, mais comme Samuel Poulain, il a été élu ministre sur le tard, là. Mm-hmm. Ça n'a pas été dans les premiers.
Ben non.
Jolin Barrette, bon, c'est peut-être un cas un peu spécial, mais ces gens-là avaient quand même une certaine feuille de route, parce que tu l'as évoqué, ça c'est important de le mentionner, c'est pas tous les partis politiques qui ont la même façon de fonctionner, notamment au niveau des nominations pour la CAQ. Ça passait par les mains de François Legault. Hein? C'était filtré comme ça.
Ouais.
Dans d'autres partis, c'est par les investitures qui se font. D'ailleurs, il y en a qui chialent encore ces investitures de certains partis.
Mais ça prend des jeunes, ça, tout le monde est bien d'accord avec ça.
Absolument.
Clairement. Et tous les partis, y compris, je pense, à une certaine époque, le Parti québécois est allé chercher un gars, à l'époque de Pauline Marois, qui s'appelle Léo Bureau-Blouin. Tu te souviens de ce gars-là?
Ben oui.
Bon, qui était...
Il était issu du milieu étudiant. Là,
exactement.
Du mouvement.
Il était connu. justement. Oh oui. C'était une personnalité connue. Oh oui. Alors, donc, on est allé chercher un jeune connu.
Gabriel Nadeau-Dubois, c'était la même histoire.
Oui, il était dans même... on les a connus au même moment, ces deux-là.
C'était les trois, là, les deux gars et la fille.
Avec Martine.
Martine, voilà.
Oui, oui. Ouais. Bon, Léo Bureau-Blouin, on l'a placé dans une circonscription prenable et il a été élu.
Exactement. C'est exactement. Ça. Alors, c'est ça. Parce que, quand même... tu sais, d'amener des jeunes à l'Assemblée nationale pour qu'ils apprennent comment ça fonctionne et tout ça, puis de les faire monter, éventuellement de les nommer ministres, je trouve que c'est une excellente idée. Mais rappelle-toi, l'ADQ de Mario Dumont, avec des élections où il y a eu des candidats poteaux, mais comme une petite vaguette qui se passait. Et c'est l'histoire, il y a des gens qui étaient sur l'aide sociale et le lendemain se retrouvaient députés à l'Assemblée nationale du Québec. Parce que il faut quand même penser qu'un siège à l'Assemblée nationale du Québec, on est rendu à 100 000 par année. Là.
Oui.
Puis juste un simple député. Alors, tu sais, oui, recruter, mais recruter quand même des gens qui ont un certain potentiel, parce que c'est une job aussi, là.
Oui, espérons qu'on aura prochainement des annonces et que cette recherche de candidats jeunesse, de ces recrues de la CAQ, sera intéressante et portera fruit. Mais moi, permets-moi d'en douter un petit peu. J'espère qu'on les placera pas dans le West Island.
Là. Oui, c'est ça. Mais là, ce qu'on donnait aussi dans les informations aujourd'hui, c'est qu'il y en avait déjà beaucoup, semble-t-il, qui avaient envoyé un CV.
Bon, ben tant mieux.
Ben, tant mieux. On va voir ce que ça va donner.
Entre-temps, ben, les autres partis politiques, vous l'avez vu, Parti libéral, Parti québécois, Québec solidaire, présentent de nombreux candidats.
Ouais. Ils ont un bon rythme de croisière.
Oui, tout à fait. Merci, Jacques Plante.
Salut.
On est en congé. Nous, demain, ce sera Ricky D qui sera là pour vous présenter Prélude au week-end, mais on sera de retour lundi pour un autre rendez-vous à 16h pour la Naudière PM. Je remercie nos collaborateurs François Morin, Pierre Jubinville, Régent Turgeon ainsi que Jacques Plante. Ici Claude Fournel. Je vous laisse au bon soin de Nicolas Bellemar qui sera là de l'autre côté de l'actualité de 17h pour vous présenter le 5 à 7 trad. Entre-temps, la vie dans la Naudière vous amène du côté de Notre-Dame-des-Prairies. Bye-bye!